Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est une joie pour moi et un honneur de me retrouver parmi vous ce soir sur cette terre d'Égypte. Ce n'est pas la première fois que j'y viens, ça doit faire 6 ou 7 fois, mais je la retrouve avec plaisir, tant est impressionnante l'histoire de ce pays, tant est prestigieuse sa civilisation, et tant sont aimables les Égyptiens que j'ai jusqu'ici rencontrés, en particulier vous, cher Oussama. Donc ma joie est grande et je remercie beaucoup Jean pour son invitation à participer avec vous à ce gala de l'IDEO. Je remercie aussi le frère René Vincent et à travers lui la communauté qui m'a accueilli depuis 3 jours maintenant. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Avec Oussama, nous étions ensemble cet été, nous avons travaillé ensemble à Thésée au service donc de la rencontre entre des jeunes, la rencontre d'amitié entre des jeunes musulmans et chrétiens, et ça a été aussi un beau et grand moment. Alors, il était de bon ton autrefois, lorsqu'un orateur prenait la parole, qu'il précise d'où il parlait. Tant qu'il n'avait pas dit d'où il parlait, on ne savait pas trop si ce qu'il allait dire nous intéressait ou pas. Donc, pour vous dire d'où je parle, ça tient en 2 choses très simples. La première, donc, je suis évêque auxiliaire à Marseille depuis 4 ans. Marseille est une ville attachante. Vous avez compris en m'entendant que je n'y suis pas né. Mais si vous me chauffez un peu, ça va revenir l'accent. Donc pour l'instant, nous sommes encore à froid, donc ça va. Donc Marseille est une ville attachante. Si j'avais à la caractériser par 2 choses quand même qui sont très importantes, c'est d'une part la pauvreté économique. C'est une ville divisée en deux, hein, mais voilà, avec des quartiers très pauvres. Il y a 2 arrondissements de Marseille qui sont parmi les quartiers les plus pauvres d'Europe. Et d'autre part, c'est une ville qui est marquée par la pluralité culturelle et religieuse. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus, tout le monde le sait. Donc c'est une ville attachante et en même temps assez difficile à cause des raisons que je viens d'évoquer. C'est la première chose pour me situer. Ce que je vais vous dire, en fait, a mûri au long d'une expérience comme jeune ayant grandi dans une cité des quartiers nord, comme prêtre et comme évêque dans cette ville. Et la deuxième chose, pour que je vous dise d'où je parle, je suis aussi depuis 1 an, depuis juillet 2017, mes confrères évêques, on est une centaine d'évêques en France, m'ont élu président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux pour l'ensemble de la Conférence des évêques de France. Et donc c'est à ce titre que c'est une joie pour moi d'accepter ce genre d'invitation et de travailler au service de la façon dont l'Église en France peut prendre au sérieux les questions que pose à la foi chrétienne l'existence d'une pluralité de religions, la légitimité de leurs prétentions à la vérité et la fécondité de l'expérience de la rencontre entre des croyants de traditions religieuses différentes. Voilà mon travail, voilà d'où je parle. Maintenant que je vous ai dit d'où je parle, il faut que je vous dise ce que je voudrais vous dire. Ce que je voudrais vous dire tient aussi en 2 points. Le premier, c'est, puisqu'on m'a demandé quels sont les fondements théologiques du dialogue interreligieux. D'abord, je voudrais avec vous essayer d'affiner la définition de ce qu'on entend par dialogue interreligieux, d'autant que cette expression peut prêter un peu à confusion. Et dans un deuxième temps, je voudrais vous proposer quelques-unes des pistes de recherche que je vois se dessiner au point où j'en suis aujourd'hui devant nous pour la compréhension de ce qui est en jeu théologiquement dans le dialogue interreligieux et de ce à quoi il faudrait probablement dans les années qui viennent travailler. On en a parlé ici parce que ici c'est un des lieux où on peut justement travailler ces questions. Alors d'abord juste quelques mots sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression dialogue interreligieux. Il vous aura sans doute pas échappé que quand on l'emploie cette expression aujourd'hui, elle soulève quand même beaucoup de perplexité. Il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais le dialogue interreligieux, c'est bien, mais enfin, si ça avait porté des fruits, ça se verrait déjà. » Ou alors le dialogue interreligieux, qu'est-ce que vous voulez? C'est un truc, ce syncrétisme qui va nous conduire où? Je ne sais pas. Ou alors le dialogue interreligieux, c'est qu'il faut être gentil les uns avec les autres, mais on ne vous a pas attendu pour ça. Voyez? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de perplexité. Et c'est pour ça que c'est important d'approfondir les fondements théologiques qu'il y a derrière cette expression et de ne pas se laisser avoir par le caractère parfois un peu ambigu qu'elle peut revêtir. Dialogue interreligieux, je vois au moins 2 acceptions. La première en lien avec la paix sociale, la deuxième en lien avec l'engagement croyant. D'abord, première acception, le dialogue interreligieux, l'expression en France, dialogue interreligieux, peut désigner, en allant vite, ce que les pouvoirs publics voudraient que les religions fassent pour concourir à la paix sociale. Nous voyons ça de plus en plus en France. Il y a quelques années, les pouvoirs publics n'accordaient pas beaucoup d'importance aux religions. Mais aujourd'hui, que la paix sociale est devenue plus précaire, que chaque attentat en rajoute, que nous sommes dans une situation où les peurs réciproques grandissent, alors les pouvoirs publics se disent que ce serait peut-être pas idiot d'avoir recours aux religions pour assurer la paix sociale. Et souvent, eux, ils appellent dialogue interreligieux les réunions qu'ils organisent entre des représentants des différentes traditions religieuses pour concourir à la paix sociale. Alors, je ne dis pas que ça, ce soit mauvais, au contraire. Je dis même que c'est nécessaire que des croyants apportent leur contribution à la paix sociale. C'est la moindre des choses. Mais je vous fais observer que c'est une façon de comprendre cette expression et qu'à mes yeux, il y a au moins deux points de vigilance là-dessus du point de vue de la théologie catholique. Le premier point de vigilance, c'est que si le dialogue interreligieux n'est que ce que les pouvoirs publics voudraient pour que les religions fassent pour concourir à la paix sociale, si le dialogue interreligieux n'est que ça, alors il y a pour nous un risque d'anesthésie. Je le vois à Marseille, monsieur le maire, que vous connaissez bien, Jean-Claude Gaudin, réunit depuis beaucoup de temps une association qui s'appelle Marseille Espérance, qui n'est pas une association, qui est une instance de la mairie. Et je vois, ça se fait dans d'autres villes. Alors le maire, le président du conseil régional ou départemental réunit monsieur le grand imam, monsieur le grand rabbin, monsieur le grand archevêque, monsieur le grand vénérable, et tout ce monde-là a un fauteuil, et tout ce monde-là est content d'avoir un fauteuil, parce qu'avant on ne le lui donnait pas, alors que maintenant on lui donne le fauteuil, on lui donne même la parole. Donc tout ça c'est bien. Mais je dis là, il y a un risque d'anesthésie, parce que je le vois. C'est que trop content d'avoir le fauteuil qu'avant on n'avait pas, on finit par ne plus oser avoir un discours critique et prophétique par rapport à l'action des pouvoirs publics qui nous ont donné le fauteuil. Petit à petit, si on n'y prend pas garde, chaque religion risque de se trouver fort éloignée du message prophétique sur lequel elle prétend être fondée, pour pouvoir être dans ce qu'il est de bon ton de faire dans l'espace feutré du politiquement correct, où enfin elle a un fauteuil. C'est-à-dire qu'une religion dans un fauteuil, c'est comme vous, si je parle trop, au bout d'un moment, ça s'assoupit. Risque d'anesthésie. Et le deuxième risque, c'est un risque de démission. C'est-à-dire que si nous, croyants, musulmans ou chrétiens, nous nous disons que le dialogue interreligieux, c'est l'affaire des pouvoirs publics, c'est eux qui l'organisent. Alors nous risquons de démissionner de notre responsabilité, de faire comme si, au fond, ça ne nous concernait pas vraiment. Or, ce que le dialogue interreligieux désigne n'est pas réductible à ça. Il concerne aussi une attitude que des croyants veulent adopter à l'égard des fidèles d'autres traditions religieuses que la leur. Sinon, nous allons être là, mais il faut que nous montrions au pouvoir public, si j'ose dire, que nous sommes capables de dialoguer tout seuls, que nous n'avons pas besoin, même si nous leur savons gré, de nous donner des fois des cadres qui nous aident, nous devons leur montrer que nous aussi, nous le désirons, non pas à cause de la paix sociale, même si elle nous importe, mais à cause de notre foi. Et c'est la deuxième acception du dialogue interreligieux. C'est-à-dire, dialogue interreligieux désigne ce coup-ci l'attitude que des croyants, au nom de leur foi, souhaitent adopter à l'égard de fidèles d'autres traditions religieuses que la leur. Pour l'Église catholique, cette attitude a été définie au moment du Concile Vatican II, dans la déclaration Nostra Aetate, qui a été promulguée le 28 octobre 1965 et à laquelle avait contribué de façon active et très importante Georges Anawati, que j'évoque avec émotion dans cette maison. Cette déclaration, elle est cependant le fruit de plusieurs moments de réflexion et d'un chemin de l'Assemblée conciliaire aussi pour nous en permettre d'en goûter la saveur. Je voudrais juste vous inviter à en retenir trois caractéristiques. La première, c'est que les pères conciliaires ont commencé à travailler là-dessus et on a abouti à un texte in extremis, puisque le concile a fini juste après, hein, c'était le 28 octobre 1965. Parce que ce n'est pas si simple. Le premier point, c'est l'importance de la dialectique entre identité et altérité. Et en dessous, c'est la question du judaïsme. En 1960, donc un peu avant le concile, lorsqu'on avait demandé que se réunissent des commissions préparatoires, aucune commission n'avait jugé bon d'inscrire à l'agenda du travail conciliaire la rédaction d'un texte sur la relation de l'Église avec le judaïsme. Pourtant, le XXe siècle avait son lot de raisons pour qu'on puisse penser que c'était important. C'est Jean XXIII qui l'a imposé. Et il en a confié la charge au cardinal Béat, un exégète jésuite allemand, qui s'en est vu de toutes les couleurs. Parce qu'une fois que l'on a su qu'il y aurait peut-être un texte de l'Église sur le judaïsme, de nombreux obstacles sont apparus, je ne vais pas les détailler, sachez au moins qu'ils étaient d'ordre politique, méthodologique et théologique. Mais enfin, le cardinal Béat a continué, et petit à petit, à la faveur des différentes interventions, sont venus se greffer sur ce texte initialement prévu pour parler de la relation entre l'Église et le judaïsme, d'autres considérations qui l'ont élargi à la question de la relation de l'Église avec les religions en général. Et Georges Annaouati a particulièrement travaillé à la question de la relation avec l'islam. Donc c'est un texte qui est passé par des moments difficiles et je pointe seulement l'importance pour la théologie chrétienne d'approfondir sa relation avec le judaïsme parce qu'elle a là l'occasion de creuser davantage la relation entre identité et altérité. Pour le dire en un mot, nos Bibles chrétiennes sont des reliures dans lesquelles il y a un premier et un nouveau testament. Très souvent, et dès le début, dans l'histoire de l'Église, il y a eu la tentation de supprimer ceux qui étaient trop juifs pour ne garder que ceux qui étaient chrétiens. Dès l'année 144, a été condamné un évêque qui s'appelait Marcion, évêque de Sinope, qui lui avait élaboré l'idée selon laquelle nos Bibles chrétiennes, il n'y avait pas besoin qu'on les encombre avec tous ces machins juifs. Et donc, il fallait supprimer tout ça. Non seulement le Premier Testament, mais aussi tout ce qui était un peu trop juif dans le Nouveau. Il a été condamné en 144. C'est pour vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais le virus du martionnisme a continué à sévir dans l'Église. Et comme disait Albert Camus à propos du bacille de la peste, le virus du martionnisme peut rester longtemps enfoui dans les plis d'un linge, à l'intérieur d'une armoire, et se réveiller de temps en temps. Et il s'est réveillé, la dernière fois qu'il s'est réveillé fortement, c'était au début du XXe siècle, en Allemagne, lorsque, premièrement, Adolf von Harnack, fit une thèse sur Marcion qui remit en circulation les idées de cet auteur. Deuxièmement, Paul de Lagarde, qui était orientaliste, a rajouté sur l'importance de déjudaïser le christianisme allemand, et le pasteur Arthur Bonus en a rajouté encore pour vraiment donner une synthèse de ce qui serait un vrai christianisme allemand. Et c'est là-dessus que les théories du national-socialisme ont fait fond pour pouvoir implanter cette idée, et comment dire, s'appuyer sur ces questions du christianisme allemand pour faire passer les idées du nazisme. Donc vous voyez, le bacille de la peste du martionnisme peut se réveiller souvent. Donc la première des choses que moi je retiens pour ce texte et que je mets à votre disposition, c'est que c'est quelque chose d'assez extraordinaire et d'original pour nous chrétiens de n'être qu'une religion greffée sur une autre, sur l'olivier juif. Et donc de ne pouvoir décliner notre identité sans faire référence à une altérité qui lui est constitutive. Je crois qu'il faut passer par là pour bien comprendre comment les pères conciliaires ont ensuite travaillé sur la relation de l'Église avec les religions. Passer par la case judaïsme, altérité, identité. Le deuxième point pour comprendre les enjeux de ce texte, c'est une conception renouvelée de la révélation. La révélation n'est pas un paquet de vérités que Dieu aurait fait tomber du ciel et heureusement nous étions dessous. Mais la révélation est une conversation. C'est-à-dire que nous confessons, ça n'est pas une constatation, ce n'est pas une évidence, sinon il suffirait de le constater. Nous confessons que Dieu, pour se révéler, a choisi un mode dialogal, que la Bible raconte sous la forme d'une histoire d'alliance. Alliance proposée à Moïse, alliance refusée par le peuple, et tout ce monde-là a un fauteuil, et tout ce monde-là est content d'avoir un fauteuil, parce qu'avant on ne le lui donnait pas, alors que maintenant on lui donne le fauteuil, on lui donne même la parole, donc tout ça c'est bien. Mais je dis là, il y a un risque d'anesthésie, parce que je le vois. C'est que trop content d'avoir le fauteuil qu'avant on n'avait pas, on finit par ne plus oser avoir un discours critique et prophétique par rapport à l'action des pouvoirs publics qui nous ont donné le fauteuil. Petit à petit, si on n'y prend pas garde, chaque religion risque de se trouver fort éloignée du message prophétique sur lequel elle prétend être fondée pour pouvoir être dans ce qu'il est de bon ton de faire dans l'espace feutré du politiquement correct où enfin elle a un fauteuil. C'est-à-dire que une religion dans un fauteuil, c'est comme vous, si je parle trop, au bout d'un moment, ça s'assoupit. Risque d'anesthésie. Et le deuxième risque, c'est un risque de démission. C'est-à-dire que si nous, croyants, musulmans ou chrétiens, nous nous disons ben, le dialogue interreligieux, c'est l'affaire des pouvoirs publics, c'est eux qui l'organisent, alors nous risquons de démissionner de notre responsabilité, de faire comme si, au fond, ça ne nous concernait pas vraiment. Or, ce que le dialogue interreligieux désigne n'est pas réductible à ça. Il concerne aussi une attitude que des croyants veulent adopter à l'égard des fidèles d'autres traditions religieuses que la leur. Sinon, nous allons être là, mais il faut que nous montrions au pouvoir public, si j'ose dire, que nous sommes capables de dialoguer tout seuls, que nous n'avons pas besoin, même si nous leur savons gré, de nous donner des fois des cadres qui nous aident, nous devons leur montrer que nous aussi nous le désirons, non pas à cause de la paix sociale, même si elle nous importe, mais à cause de notre foi. Et c'est la deuxième acception du dialogue interreligieux. C'est-à-dire, dialogue interreligieux désigne ce coup-ci l'attitude que des croyants, au nom de leur foi, souhaitent adopter à l'égard de fidèles d'autres traditions religieuses que la leur. Pour l'Église catholique, cette attitude a été définie au moment du Concile Vatican II, dans la déclaration Nostra Aetate, qui a été promulguée le 28 octobre 1965, et à laquelle avait contribué de façon active et très importante Georges Anahuati, que j'évoque avec émotion dans cette maison. Cette déclaration, elle est cependant le fruit de plusieurs moments de réflexion et d'un chemin de l'Assemblée conciliaire aussi. Pour nous en permettre d'en goûter la saveur, je voudrais juste vous inviter à en retenir trois caractéristiques. La première, c'est que les pères conciliaires ont commencé à travailler là-dessus et on a abouti à un texte in extremis, puisque le concile a fini juste après, c'était le 28 octobre 1965. Parce que ce n'est pas si simple. Le premier point, c'est l'importance de la dialectique entre identité et altérité. Et en dessous, c'est la question du judaïsme. En 1960, donc un peu avant le Concile, lorsqu'on avait demandé que se réunissent des commissions préparatoires, aucune commission n'avait jugé bon d'inscrire à l'agenda du travail conciliaire la rédaction d'un texte sur la relation de l'Église avec le judaïsme. Pourtant, le XXe siècle avait son lot de raisons pour qu'on puisse penser que c'était important. C'est Jean XXIII qui l'a imposé. Et il en a confié la charge au cardinal Béat, un exégète jésuite allemand, qui s'en est vu de toutes les couleurs. Parce qu'une fois que l'on a su qu'il y aurait peut-être un texte de l'Église sur le judaïsme, de nombreux obstacles sont apparus, je ne vais pas les détailler, sachez au moins qu'ils étaient d'ordre politique, méthodologique et théologique. Mais enfin, le cardinal Béat a continué, et petit à petit, à la faveur des différentes interventions, sont venus se greffer sur ce texte initialement prévu pour parler de la relation entre l'Église et le judaïsme, d'autres considérations qui l'ont élargi à la question de la relation de l'Église avec les religions en général. Et Georges Annaouati a particulièrement travaillé à la question de la relation avec l'islam. Donc c'est un texte qui est passé par des moments difficiles et je pointe seulement l'importance pour la théologie chrétienne d'approfondir sa relation avec le judaïsme parce qu'elle a là l'occasion de creuser davantage la relation entre identité et altérité. Pour le dire en un mot, nos Bibles chrétiennes sont des reliures dans lesquelles il y a un premier et un nouveau testament. Très souvent, et dès le début, dans l'histoire de l'Église, il y a eu la tentation de supprimer ceux qui étaient trop juifs pour ne garder que ceux qui étaient chrétiens. Dès l'année 144, a été condamné un évêque qui s'appelait Marcion, évêque de Sinope, qui lui avait élaboré l'idée selon laquelle nos Bibles chrétiennes, il n'y avait pas besoin qu'on les encombre avec tous ces machins juifs. Et donc, il fallait supprimer tout ça. Non seulement le Premier Testament, mais aussi tout ce qui était un peu trop juif dans le Nouveau. Il a été condamné en 144, c'est pour vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais le virus du martionnisme a continué à sévir dans l'Église. Et comme disait Albert Camus à propos du bacille de la peste, le virus du martionnisme peut rester longtemps enfoui dans les plis d'un linge, à l'intérieur d'une armoire, et se réveiller de temps en temps. Et il s'est réveillé, la dernière fois qu'il s'est réveillé fortement, c'était au début du XXe siècle, en Allemagne, lorsque, premièrement, Adolf von Harnack fit une thèse sur Marcion qui remit en circulation les idées de cet auteur. Deuxièmement, Paul de Lagarde, qui était orientaliste, a rajouté sur l'importance de déjudaïser le christianisme allemand. Et le pasteur Arthur Bonus en a rajouté encore pour vraiment donner une synthèse de ce qui serait un vrai christianisme allemand. Et c'est là-dessus que les théories du national-socialisme ont fait fond pour pouvoir implanter cette idée, et comment dire, s'appuyer sur ces questions du christianisme allemand pour faire passer les idées du nazisme. Donc vous voyez, le bacille de la peste du martionnisme peut se réveiller souvent. Donc, la première des choses que moi je retiens pour ce texte et que je mets à votre disposition, c'est que c'est quelque chose d'assez extraordinaire et d'original pour nous chrétiens de n'être qu'une religion greffée sur une autre, sur l'olivier juif. Et donc, de ne pouvoir décliner notre identité sans faire référence à une altérité qui lui est constitutive. Je crois qu'il faut passer par là pour bien comprendre comment les pères conciliaires ont ensuite travaillé sur la relation de l'Église avec les religions. Passer par la case judaïsme, altérité, identité. Le deuxième point pour comprendre les enjeux de ce texte, c'est une conception renouvelée de la révélation. La révélation n'est pas un paquet de vérités que Dieu aurait fait tomber du ciel et heureusement nous étions dessous. Mais la révélation est une conversation, c'est-à-dire que nous confessons, ça n'est pas une constatation, ce n'est pas une évidence, sinon il suffirait de le constater. Nous confessons que Dieu, pour se révéler, a choisi un mode dialogal, que la Bible raconte sous la forme d'une histoire d'alliance, alliance proposée à Moïse, alliance refusée par le peuple, puis reproposer encore une fois, etc., etc., sans jamais se résigner à nos ruptures d'alliance. Et donc la révélation, disait déjà le pape Paul VI, quelque temps avant le texte dont nous parlons, dans sa première encyclique Ecclesiam Suam, promulguée le 6 août 1964, il disait: la révélation, au fond, c'est la façon dont Dieu engage avec l'humanité un colloquium salutis. Et ce mot latin de colloquium, c'est celui qu'on a traduit par dialogue. Vous comprenez du coup que le dialogue est un mot qui a une forte teneur théologique, qu'il ne désigne pas le bavardage que nous pourrions faire en chemin, sachant que ma foi, pourvu que moi je reste moi et que l'autre y reste l'autre, on peut bavarder. Non. Le dialogue, c'est le mot par lequel nous désignons le geste de la révélation de Dieu. Et Paul VI, au numéro 73 et 74 de son encyclique, fait un pas de plus en disant: c'est parce que nous confessons que Dieu a choisi un mode dialogal pour se révéler que nous en déduisons que nous, Église, pour nous ajuster au geste de Dieu, nous devons entrer en dialogue avec l'humanité. Voilà. Point très important si on veut comprendre ce texte. Le dialogue est un mot à forte teneur théologique, et sa teneur théologique, il la trouve dans une théologie de la révélation. Et la troisième chose, caractéristique de ce texte, j'ai dit premièrement altérité, identité, deuxièmement la révélation comme dialogue, comme conversation. C'était Saint Bernard qui utilisait le mot conversari, qui signifie à la fois dialoguer et aussi, et même premièrement, vivre avec. Donc c'était le deuxième. Et le troisième, c'est que le texte, si vous le lisez, vous verrez que il ne donne pas des directives. Il indique l'horizon d'un équilibre. Ce qui veut dire qu'après, vous verrez, en fonction des contextes, en fonction de... Des fois c'est plus facile, des fois ça l'est moins, des fois on est allé trop loin d'un côté, des fois on est allé trop loin de l'autre. Le texte ne dit pas, ne donne pas de directive, mais il indique l'horizon d'un équilibre. Et si vous voulez chercher où est l'horizon de cet équilibre, il faut lire la fin du paragraphe 2 de Nostra Aetate. Alors, comme vous le lirez ensuite, je vais quand même vous le dire. Comme ça, vous direz, je l'ai relu. Voilà. Je cite. Vous allez voir, une fois qu'on sait ça, on sait en gros la charte pour l'Église. Voilà. Si on vous dit, mais où c'est que c'est dans les textes de l'Église, les questions du dialogue interbellé, c'est là, la fin du paragraphe 2 de Nostra Aetate. Je cite. L'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint, S-A-I-N-T, dans les religions. Sous-entendu, il y a du vrai et du saint dans toutes les religions. Et sous-entendu aussi, tout n'est pas vrai et tout n'est pas saint dans toutes les religions, discernement s'impose. L'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Point. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines. Sous-entendu, c'est pas qu'une affaire de doctrine, c'est des manières d'agir, de vivre. Elle les considère avec un respect sincère, ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, virgule, quoi qu'elles diffèrent beaucoup de ce qu'elle-même tient et propose. Ne dites pas, le dialogue interreligieux, c'est de faire qu'on est tous pareils finalement. Monsieur le maire, il aimerait ça. Mais c'est pas ça que dit le texte de l'Église. Elle diffère beaucoup de ce qu'elle-même tient et propose. Et souvent, on avance quand on prend acte de nos différences, plutôt que quand on fait semblant d'être semblable. Quoiqu'elle diffère beaucoup de ce qu'elle-même tient et propose, virgule, apporte souvent, c'est-à-dire ni jamais, ni toujours, souvent, un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Point. Toutefois, elle annonce, et elle est tenue d'annoncer sans cesse, le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie, Saint Jean chapitre 14, verset 6, en qui les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse, et en qui Dieu s'est réconcilié toutes choses. Vous voyez cet équilibre. Elle considère avec un respect sincère. Toutefois, elle annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse. Point. C'est pourquoi elle exhorte ses fils pour que, avec prudence et charité, par le dialogue et par la coopération, dialogue et coopération, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socioculturelles qui se trouvent dans les religions. Point. Fin de citation. C'est la fin du paragraphe 2 de Nostra Aetate. Du coup, maintenant, quand vous le lirez, vous le reconnaîtrez. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce texte. Voyez, cette deuxième acception de l'expression dialogue interreligieux. Elle est non pas fondée sur une théorie sociopolitique du religieux comme l'était la première, mais fondée sur une réflexion théologique et pastorale qui s'enracine dans l'histoire vécue même par les pères conciliaires, partant de zéro, imposé par Jean XXIII un texte sur le judaïsme, puis nichant dans ce texte des préoccupations qui allaient l'ouvrir. Un petit texte appelé à jouer un grand rôle. Et pour le comprendre, altérité, identité, révélation comme colloquium et équilibre à rechercher. Cela étant dit, c'était ma première partie sur que signifie le mot dialogue, l'expression dialogue interreligieux. Je voudrais, dans une deuxième partie, vous dire brièvement quelles sont les pistes théologiques que je vois, moi, aujourd'hui, se dessiner devant nous. Avant cela, je veux faire deux petites remarques préalables sur deux choses qui me semblent indispensables. La première, c'est qu'il s'agit d'accepter d'entrer dans une démarche spirituelle. La deuxième, c'est qu'il s'agit d'accepter de convoquer notre intelligence. Si tu veux chercher les pistes de travail, d'abord fais ça. Premièrement, accepter d'entrer dans une démarche spirituelle. Comme Jean le rappelait tout à l'heure, moi-même, je ne suis pas venu à ces questions par goût personnel, ni par compétence acquise. Je suis venu parce que j'étais à Marseille, que l'évêque m'a dit qu'il nous faudrait faire un centre de formation théologique, et que du coup, je me suis mis à travailler ces questions-là, parce que j'avais pensé qu'à Marseille, c'était judicieux de faire ça. Alors il m'a dit, fais-le toi. Mais j'ai dit, fais-le toi. Alors je m'y suis mis. Et peu à peu, je vous livre ce que moi j'ai découvert. C'est qu'on ne peut pas aller loin dans ces questions si on reste simplement au niveau de l'intellect. Il faut que ce soit une démarche spirituelle. Le dialogue n'est pas une activité tranquille. C'est une épreuve. C'est une assaise. Si tu le vis sérieusement, c'est une épreuve. C'est-à-dire, accepter qu'il y ait de la vérité dans ce que l'autre me dit de Dieu, c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre. Accepter que Dieu soit encore plus grand que ce que j'avais cru savoir à son sujet, c'est une épreuve. Accepter que, chemin faisant, je puisse non seulement pouvoir témoigner de ce qui me fait vivre à mon interlocuteur, mais aussi apprendre de lui, à cause du travail de l'Esprit-Saint en lui, quelque chose du Dieu que je confesse, c'est une épreuve. Et il ne faut pas faire croire aux gens que le dialogue interreligieux, c'est une activité tranquille qu'on fait après la messe le dimanche. Ah non, c'est une assaise. C'est une assaise. Donc, ça, il s'agit d'y entrer. Et sérieusement. Sinon, vous allez avoir des gens très savants sur l'islam ou sur le bouddhisme, mais qui n'auront pas fait cette démarche-là. Et donc, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que cela étant fait, il faut convoquer l'intelligence. Il faut convoquer l'intelligence. Il faut pouvoir apprendre à chercher la fécondité théologique de l'expérience du dialogue. Je pense que chaque tradition religieuse devrait le faire en interne. C'est-à-dire, quelle est la fécondité dans ma compréhension de ma propre foi, de l'expérience que je fais, de la rencontre honnête, sincère, avec quelqu'un qui ne croit pas comme moi et qui cependant croit. Chaque religion devrait pouvoir le faire en interne. Si nous faisons ça, le dialogue interreligieux ne sera plus simplement de parler entre nous de nos différences ou de nos ressemblances. Ça, c'est important de le faire. Mais une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Mais de parler entre nous de ce que produit en nous, dans notre vie spirituelle et dans notre intelligence de la foi, le fait de s'être engagé sérieusement et sincèrement dans une rencontre à hauteur de visage, comme disait Emmanuel Lévinas. Ces deux choses étant dites en préalable, la nécessité d'accepter d'entrer dans une démarche spirituelle et la nécessité d'accepter de convoquer l'intelligence, je voudrais juste indiquer deux pistes qui s'ouvrent à mes yeux devant la recherche théologique. La première, c'est que nous avons besoin de consolider notre théologie. Là, je parle maintenant pour le coup à l'intérieur du christianisme. chaque religion, me semble-t-il, devant faire ce travail. En christianisme, nous avons besoin de consolider notre théologie de l'Esprit-Saint. Celui qui a le plus, à mes yeux, poussé en ce sens, c'est le pape Jean-Paul II. Lui-même avait compris qu'il fallait qu'on reprenne notre pneumatologie, notre théologie de l'Esprit-Saint, qu'on la pousse plus avant. Il s'inspirait de ce texte du Concile Gaudium et Spes, chapitre 22, numéro 5, qui disait « L'Esprit-Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. » Lui-même, Jean-Paul II, puis reproposer encore une fois, etc., etc., sans jamais se résigner à nos ruptures d'alliance. Et donc la révélation, disait déjà le pape Paul VI, quelque temps avant le texte dont nous parlons dans sa première encyclique Ecclesiam Suam, promulguée le 6 août 1964, il disait la révélation, au fond, c'est la façon dont Dieu engage avec l'humanité un colloquium salutis. Et ce mot latin de colloquium, c'est celui qu'on a traduit par dialogue. Vous comprenez du coup que le dialogue est un mot qui a une forte teneur théologique, qu'il ne désigne pas le bavardage que nous pourrions faire en chemin, sachant que ma foi, pourvu que moi je reste moi et que l'autre y reste l'autre, on peut bavarder. Non. Le dialogue, c'est le mot par lequel nous désignons le geste de la révélation de Dieu. Et Paul VI, au numéro 73 et 74 de son encyclique, fait un pas de plus en disant « C'est parce que nous confessons que Dieu a choisi un mode dialogal pour se révéler que nous en déduisons que nous, Église, pour nous ajuster au geste de Dieu, nous devons entrer en dialogue avec l'humanité. » Voilà. Point très important si on veut comprendre ce texte. Le dialogue est un mot à forte teneur théologique, et sa teneur théologique, il la trouve dans une théologie de la révélation. Et la troisième chose, caractéristique de ce texte, hein, j'ai dit, premièrement, altérité, identité, deuxièmement, la révélation comme dialogue, comme conversation. C'était saint Bernard qui utilisait le mot conversari, qui signifie à la fois dialoguer et aussi, et même premièrement, vivre avec. Donc c'était le deuxième. Et le troisième, c'est que le texte, si vous le lisez, vous verrez que il ne donne pas des directives, il indique l'horizon d'un équilibre. Ce qui veut dire qu'après, ben, vous verrez, en fonction des contextes, en fonction de... Des fois c'est plus facile, des fois ça l'est moins, des fois on est allé trop loin d'un côté, des fois on est allé trop loin de l'autre. Le texte ne donne pas de directives, mais il indique l'horizon d'un équilibre. Et si vous voulez chercher où est l'horizon de cet équilibre, il faut lire la fin du paragraphe 2 de Nostra Aetate. Alors, comme vous le lirez ensuite, je vais quand même vous le dire. Comme ça, vous direz, ben, je l'ai relu. Voilà. Je cite. Vous allez voir, une fois qu'on sait ça, on sait en gros la charte pour l'Église. Voilà. Si on vous dit, mais où c'est que c'est dans les textes de l'Église, les questions du dialogue intérieur, ben, c'est là, la fin du paragraphe 2 de Nostra Aetate. Je cite. L'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint, S-A-I-N-T, dans les religions. Sous-entendu, il y a du vrai et du saint dans toutes les religions. Et sous-entendu aussi, tout n'est pas vrai et tout n'est pas saint dans toutes les religions, discernement s'impose. L'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Point. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines. Sous-entendu, ce n'est pas qu'une affaire de doctrine, c'est des manières d'agir, de vivre. Elle les considère avec un respect sincère, ces manières d'agir et de vivre, ces règles et ces doctrines qui, virgule, quoi qu'elles diffèrent beaucoup de ce qu'elle-même tient et propose. Ne dites pas, ben, le dialogue interreligieux, c'est de faire qu'on est tous pareils finalement. Monsieur le maire, il aimerait ça. Mais ce n'est pas ça que dit le texte de l'Église. Elle diffère beaucoup de ce qu'elle-même tient et propose. Et souvent, on avance quand on prend acte de nos différences, plutôt que quand on fait semblant d'être semblable. Quoiqu'elle diffère beaucoup de ce qu'elle-même tient et propose, virgule, apporte souvent, c'est-à-dire ni jamais, ni toujours, souvent, un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Point. Toutefois, elle annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie, Saint Jean chapitre 14, verset 6, en qui les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et en qui Dieu s'est réconcilié toutes choses. Vous voyez cet équilibre? Elle considère avec un respect sincère, toutefois elle annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse. Point. C'est pourquoi elle exhorte ses fils pour que, avec prudence et charité, par le dialogue et par la coopération, dialogue et coopération, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socioculturelles qui se trouvent dans les religions. Point. Fin de citation. C'est la fin du paragraphe 2 de Nostra Aetate. Du coup, maintenant, quand vous le lirez, vous le reconnaîtrez. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce texte. Voyez, cette deuxième acception de l'expression dialogue interreligieux, elle est non pas fondée sur une théorie sociopolitique du religieux comme l'était la première, mais fondée sur une réflexion théologique et pastorale qui s'enracine dans l'histoire vécue même par les pères conciliaires, partant de zéro, imposé par Jean 23 un texte sur le judaïsme, puis nichant dans ce texte des préoccupations qui allaient l'ouvrir. Un petit texte appelé à jouer un grand rôle. Et pour le comprendre, altérité, identité, révélation comme colloquium et équilibre à rechercher. Cela étant dit, c'était ma première partie sur que signifie le mot dialogue, l'expression dialogue interreligieux. Je voudrais, dans une deuxième partie, vous dire brièvement quelles sont les pistes théologiques que je vois, moi, aujourd'hui, se dessiner devant nous. Avant cela, je veux faire deux petites remarques préalables sur deux choses qui me semblent indispensables. La première, c'est qu'il s'agit d'accepter d'entrer dans une démarche spirituelle. La deuxième, c'est qu'il s'agit d'accepter de convoquer notre intelligence. Si tu veux chercher les pistes de travail, d'abord fais ça. Premièrement, accepter d'entrer dans une démarche spirituelle. Comme Jean le rappelait tout à l'heure, moi-même, je ne suis pas venu à ces questions par goût personnel, ni par compétence acquise. Je suis venu parce que j'étais à Marseille, que l'évêque m'a dit qu'il nous faudrait faire un centre de formation théologique et que du coup, je me suis mis à travailler ces questions-là parce que j'avais pensé qu'à Marseille, c'était judicieux de faire ça. Alors, il m'a dit, fais-le toi. Mais j'ai dit, mais moi, il m'a dit, non, fais-le toi. Alors, je m'y suis mis. Et peu à peu, je vous livre ce que moi, j'ai découvert. C'est qu'on ne peut pas aller loin dans ces questions si on reste simplement au niveau de l'intellect. Il faut que ce soit une démarche spirituelle. Le dialogue n'est pas une activité tranquille. C'est une épreuve. C'est une assaise. Si tu le vis sérieusement, c'est une épreuve. C'est-à-dire, accepter qu'il y ait de la vérité dans ce que l'autre me dit de Dieu, c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre. Accepter que Dieu soit encore plus grand que ce que j'avais cru savoir à son sujet, c'est une épreuve. Accepter que, chemin faisant, je puisse non seulement pouvoir témoigner de ce qui me fait vivre à mon interlocuteur, mais aussi apprendre de lui, à cause du travail de l'Esprit-Saint en lui, quelque chose du Dieu que je confesse, c'est une épreuve. Et il ne faut pas faire croire aux gens que le dialogue interreligieux, c'est une activité tranquille qu'on fait après la messe le dimanche. Ah non, c'est une assaise. C'est une assaise. Donc, ça, il s'agit d'y entrer. Et sérieusement. Sinon, vous allez avoir des gens très savants sur l'islam ou sur le bouddhisme, mais qui n'auront pas fait cette démarche-là. Et donc, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que cela étant fait, il faut convoquer l'intelligence. Il faut convoquer l'intelligence. Il faut pouvoir apprendre à chercher la fécondité théologique de l'expérience du dialogue. Je pense que chaque tradition religieuse devrait le faire en interne. C'est-à-dire, quelle est la fécondité dans ma compréhension de ma propre foi, de l'expérience que je fais, de la rencontre honnête, sincère, avec quelqu'un qui ne croit pas comme moi, et qui cependant croit. Chaque religion devrait pouvoir le faire en interne. Si nous faisons ça, le dialogue interreligieux ne sera plus simplement de parler entre nous de nos différences ou de nos ressemblances. Ça, c'est important de le faire. Mais une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Mais de parler entre nous de ce que produit en nous, dans notre vie spirituelle et dans notre intelligence de la foi, le fait de s'être engagé sérieusement et sincèrement dans une rencontre à hauteur de visage, comme disait Emmanuel Lévinas. Ces deux choses étant dites en préalable, la nécessité d'accepter d'entrer dans une démarche spirituelle et la nécessité d'accepter de convoquer l'intelligence, je voudrais juste indiquer deux pistes qui s'ouvrent à mes yeux devant la recherche théologique. La première, c'est que nous avons besoin de consolider notre théologie. Là, je parle maintenant pour le coup à l'intérieur du christianisme. Chaque religion, me semble-t-il, devant faire ce travail. En christianisme, nous avons besoin de consolider notre théologie de l'Esprit-Saint. Celui qui a le plus, à mes yeux, poussé en ce sens, c'est le pape Jean-Paul II. Lui-même avait compris qu'il fallait qu'on reprenne notre pneumatologie, notre théologie de l'Esprit-Saint, qu'on la pousse plus avant. Il s'inspirait de ce texte du Concile Gaudium et Spes, chapitre 22, numéro 5, qui disait « L'Esprit-Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. » Lui-même, Jean-Paul II, quelque temps avant la rencontre d'Assise du 27 octobre 1986, avait publié une encyclique sur l'Esprit-Saint, « Dominum et Vivificantem », parce que, au fond, c'est une des clés. Et puis, encore plus dans les textes de Jean-Paul II, encore plus précis, un texte postérieur à Assise, l'encyclique Redemptoris Missio, au numéro 28, qui dit ceci, je cite, « L'Esprit-Saint est présent et agissant, non seulement dans les personnes, mais aussi dans les sociétés, dans les cultures, dans l'histoire et dans les religions. » Fin de citation. Jean-Paul II était persuadé de ça. Il disait, pour un chrétien, toute prière authentique, même si elle est faite dans d'autres rites, est inspirée par l'Esprit-Saint. C'est-à-dire qu'il nous faut avoir le courage de penser que l'Esprit de Jésus-Christ est présent et agissant dans l'histoire, dans les sociétés, dans les cultures, dans les religions. Non pas pour adopter du coup une attitude triomphaliste, mais au contraire pour être humblement convié à chercher les traces du travail de l'Esprit dans les existences humaines de ceux avec lesquels nous vivons. En fond, il faut chercher les traces du désir de Dieu dans l'histoire religieuse et culturelle de l'humanité. C'est un programme énorme, énorme, mais que Jean-Paul II avait bien vu. Voilà. Et donc, je pense qu'il nous faut consolider notre théologie de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas le lieu ici que je développe la chose, mais je peux vous dire que j'observe bien que c'est quand notre théologie en chrétien, hein, en christianisme, c'est quand notre théologie n'est pas assez trinitaire, que notre mission n'est pas assez dialogale. Et peut-être que nous aurions besoin, pour consolider notre pneumatologie en Occident, de recueillir le travail de nos frères chrétiens d'Orient, dont la pneumatologie a toujours été plus avancée que la nôtre, et je suis heureux de saluer avec respect le père Samir Khalil, et de dire que son travail sur la littérature arabe chrétienne, à mes yeux, est très important aujourd'hui pour consolider notre pneumatologie. C'est la première piste, et il y aurait beaucoup à faire. La deuxième piste, c'est de retravailler sur la mission de l'Église. Car au fond, qu'est-ce que la mission de l'Église, sinon de coopérer au travail de l'Esprit-Saint? C'est tout. Son rôle, ce n'est pas de développer une ONG. Son rôle, c'est même pas de compter frénétiquement le nombre de ses adhérents. Son rôle, sa mission, ça n'est pas de céder à l'idéologie mondaine de la croissance en confondant efficacité et fécondité. Non, elle doit coopérer au travail de l'Esprit-Saint. De quelle façon? En étant au service de la relation entre Dieu et le monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, on lit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils ». On ne lit pas « Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné son propre fils. On lit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils. Et du coup, quelle est la mission de l'Église ? C'est d'être au service de la relation entre Dieu et le monde. Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est un décentrement pour elle. Chaque fois d'ailleurs qu'elle a oublié ça et qu'elle a cru que son centre de gravité était en elle-même ou dans la relation qu'elle-même entretient avec Dieu, chaque fois, ça a mal fini. Sa mission, c'est de servir la relation entre Dieu et le monde. Vous le savez bien, vous ici, qui passez des journées, voire des années de votre vie, à étudier des textes, des auteurs, des gens dont vous recherchez en même temps l'attitude, l'expérience spirituelle qui les a conduits à écrire ce que vous traduisez, et d'une certaine façon, vous aussi, vous scrutez l'histoire religieuse de l'humanité pour y décerner le désir de Dieu, les traces de l'Esprit, et vous prendre votre part de la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est très important donc aujourd'hui de pouvoir aussi développer cette piste, et on pourrait en rajouter, mais ça suffit, je vous ne fais ici que indiquer les pistes qu'il faudrait travailler. Mais voyez, je pense qu'on peut renouveler beaucoup de choses dans la compréhension de la mission si on la comprend comme coopérant au travail de l'Esprit et au service de la relation entre Dieu et le monde. J'ajoute que c'est pour ça qu'on peut comprendre aussi que l'Église et peut-être aussi d'autres traditions religieuses ne sont pas toujours à l'aise dans le dialogue interreligieux parce qu'elles-mêmes ne se considèrent pas tout à fait comme une religion. En tout cas, pour l'Église, c'est vrai. D'ailleurs, il a fallu attendre le IVe siècle pour que Lactance nous convainque qu'on pouvait utiliser le mot religion pour désigner la voix des chrétiens, alors que jusque-là, le mot religion, c'était pour désigner la religion païenne des Romains. Parce qu'au fond, on est moins une religion qu'un ministère, c'est-à-dire un service. Et ceci est extrêmement important pour comprendre ce qu'est l'Église et ce qu'elle fait quand elle s'engage dans le dialogue interreligieux. Je pense qu'il doit falloir que je conclue. Je voudrais simplement, donc, pour conclure, vous rappeler ce que j'ai essayé de vous dire, vous définir avec vous ce qu'était le dialogue interreligieux avec les ambiguïtés qui vont derrière cela, mais quand même en distinguant le lien avec la paix sociale et le lien plus important, bien sûr, pour moi, avec l'engagement croyant, l'un n'excluant pas l'autre. Et puis après, vous expliquer comment, du point de vue de l'engagement croyant, on pouvait le faire en se rapportant au texte du Concile Vatican II, et en particulier la dialectique identité-altérité, une compréhension de la révélation, et puis un équilibre entre le dialogue et l'annonce, un équilibre à essayer d'atteindre. Et puis quant aux pistes, à condition qu'on ait compris et accepté qu'il s'agit d'une expérience spirituelle et que la raison y est convoquée, alors développer notre pneumatologie en recueillant aussi le fruit du travail des chrétiens d'Orient et développer notre théologie de la mission. Pour conclure, je voudrais juste dire que si on fait tout ça, il me semble que l'expérience du dialogue interreligieux, avec toutes les ambiguïtés qu'elle a, avec toutes les difficultés qu'elle rencontre, avec toutes les perplexités qu'elle soulève et que j'ai évoquées aussi, m'apparaît à moi comme un rendez-vous que le Seigneur nous donne. Ou bien on le vit comme ça, ou bien on passe à côté de l'essentiel. Un rendez-vous que le Seigneur nous donne. On découvre Dieu dans la rencontre qu'il suscite, disait autrefois Michel de Certeau. Il faut accepter que ce Dieu dont nous confessons que pour se révéler, il a voulu entrer en conversation avec l'humanité, que ce Dieu puisse habiter nos conversations et qu'il nous donne rendez-vous dans les échanges, les relations que nous pouvons avoir. Mon vœu, en tout cas, est que cette maison, l'Institut Dominicain d'études orientales du Caire, puisse aider l'Église qui est en Égypte, l'Église qui est en France, et plus généralement l'Église, puisse aider l'Église à avancer joyeusement, et sereinement et courageusement sur ce chemin, et qu'elle puisse aussi l'aider à désirer vraiment, humblement, ce que Dieu veut lui donner à travers l'expérience exigeante mais passionnante du dialogue interreligieux. Je vous remercie. Quelque temps avant la rencontre d'Assise du 27 octobre 1986, avait publié une encyclique sur l'Esprit Saint, Dominum et Vivificantem, parce que, au fond, c'est une des clés. Et puis, encore plus dans les textes de Jean-Paul II, encore plus précis, un texte postérieur à Assise, l'encyclique Redemptoris Missio, au numéro 28, qui dit ceci, je cite, « L'Esprit Saint est présent et agissant, non seulement dans les personnes, mais aussi dans les sociétés, dans les cultures, dans l'histoire et dans les religions. » Fin de citation. Jean-Paul II était persuadé de ça. Il disait, pour un chrétien, toute prière authentique, même si elle est faite dans d'autres rites, est inspirée par l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il nous faut avoir le courage de penser que l'Esprit de Jésus-Christ est présent et agissant dans l'histoire, dans les sociétés, dans les cultures, dans les religions. Non pas pour adopter du coup une attitude triomphaliste, mais au contraire pour être humblement convié à chercher les traces du travail de l'Esprit dans les existences humaines de ceux avec lesquels nous vivons. En fond, il faut chercher les traces du désir de Dieu dans l'histoire religieuse et culturelle de l'humanité. C'est un programme énorme, énorme, mais que Jean-Paul II avait bien vu. Voilà. Et donc, je pense qu'il nous faut consolider notre théologie de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas le lieu ici que je développe la chose, mais je peux vous dire que j'observe bien que c'est quand notre théologie en chrétien, hein, en christianisme, c'est quand notre théologie n'est pas assez trinitaire que notre mission n'est pas assez dialogale. Et peut-être que nous aurions besoin, pour consolider notre pneumatologie en Occident, de recueillir le travail de nos frères chrétiens d'Orient, dont la pneumatologie a toujours été plus avancée que la nôtre, et je suis heureux de saluer avec respect le père Samir Khalil, et de dire que son travail sur la littérature arabe chrétienne, à mes yeux, est très important aujourd'hui pour consolider notre pneumatologie. C'est la première piste, et il y aurait beaucoup à faire. La deuxième piste, c'est de retravailler sur la mission de l'Église. Car au fond, qu'est-ce que la mission de l'Église, sinon de coopérer au travail de l'Esprit-Saint? C'est tout. Son rôle, ce n'est pas de développer une ONG. Son rôle, ce n'est même pas de compter frénétiquement le nombre de ses adhérents. Son rôle, sa mission, ça n'est pas de céder à l'idéologie mondaine de la croissance en confondant efficacité et fécondité. Non, elle doit coopérer au travail de l'Esprit-Saint. De quelle façon? En étant au service de la relation entre Dieu et le monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, on lit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils ». On ne lit pas « Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné son propre fils ». On lit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils ». Et du coup, quelle est la mission de l'Église? C'est d'être au service de la relation entre Dieu et le monde. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est un décentrement pour elle. Chaque fois d'ailleurs qu'elle a oublié ça et qu'elle a cru que son centre de gravité était en elle-même ou dans la relation qu'elle-même entretient avec Dieu, chaque fois, ça a mal fini. Sa mission, c'est de servir la relation entre Dieu et le monde. Vous le savez bien, vous ici, qui passez des journées, voire des années de votre vie, à étudier des textes, des auteurs, des gens dont vous recherchez en même temps l'attitude, l'expérience spirituelle qui les a conduits à écrire ce que vous traduisez, et d'une certaine façon, vous aussi, vous scrutez l'histoire religieuse de l'humanité pour y décerner le désir de Dieu, les traces de l'Esprit, et vous prendre votre part de la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est très important donc aujourd'hui de pouvoir aussi développer cette piste, et on pourrait en rajouter, mais ça suffit, je vous ne fais ici que indiquer les pistes qu'il faudrait travailler. Mais voyez, je pense qu'on peut renouveler beaucoup de choses dans la compréhension de la mission si on la comprend comme coopérant au travail de l'Esprit et au service de la relation entre Dieu et le monde. J'ajoute que c'est pour ça qu'on peut comprendre aussi que l'Église et peut-être aussi d'autres traditions religieuses ne sont pas toujours à l'aise dans le dialogue interreligieux parce qu'elles-mêmes se considère pas tout à fait comme une religion. En tout cas, pour l'Église, c'est vrai. D'ailleurs, il a fallu attendre le IVe siècle pour que Lactance nous convainque qu'on pouvait utiliser le mot religion pour désigner la voie des chrétiens, alors que jusque-là, le mot religion, c'était pour désigner la religion païenne des Romains. Parce que, au fond, on est moins une religion qu'un ministère, c'est-à-dire un service. Et ceci est extrêmement important pour comprendre ce qu'est l'Église et ce qu'elle fait quand elle s'engage dans le dialogue interreligieux. Je pense qu'il doit falloir que je conclue. Je voudrais simplement, donc, pour conclure, vous rappeler ce que j'ai essayé de vous dire, vous définir avec vous ce qu'était le dialogue interreligieux avec les ambiguïtés qui vont derrière cela, mais quand même en distinguant le lien avec la paix sociale et le lien plus important, bien sûr, pour moi, avec l'engagement croyant, l'un n'excluant pas l'autre. Et puis après, vous expliquer comment, du point de vue de l'engagement croyant, on pouvait le faire en se rapportant au texte du Concile Vatican II, et en particulier la dialectique identité-altérité, une compréhension de la révélation, et puis un équilibre entre le dialogue et l'annonce, un équilibre à essayer d'atteindre. Et puis quant aux pistes, à condition qu'on ait compris et accepté qu'il s'agit d'une expérience spirituelle et que la raison y est convoquée, alors développer notre pneumatologie en recueillant aussi le fruit du travail des chrétiens d'Orient et développer notre théologie de la mission. Pour conclure, je voudrais juste dire que si on fait tout ça, il me semble que l'expérience du dialogue interreligieux, avec toutes les ambiguïtés qu'elle a, avec toutes les difficultés qu'elle rencontre, avec toutes les perplexités qu'elle soulève et que j'ai évoquées aussi, m'apparaît à moi comme un rendez-vous que le Seigneur nous donne. Ou bien on le vit comme ça, ou bien on passe à côté de l'essentiel. Un rendez-vous que le Seigneur nous donne. On découvre Dieu dans la rencontre qu'il suscite, disait autrefois Michel de Certeau. Il faut accepter que ce Dieu dont nous confessons que pour se révéler, il a voulu entrer en conversation avec l'humanité, que ce Dieu puisse habiter nos conversations et qu'il nous donne rendez-vous dans les échanges, les relations que nous pouvons avoir. Mon vœu, en tout cas, est que cette maison, l'Institut dominicain d'études orientales du Caire, puisse aider l'Église qui est en Égypte, l'Église qui est en France, et plus généralement l'Église, puisse aider l'Église à avancer joyeusement, et sereinement, et courageusement sur ce chemin, et qu'elle puisse aussi l'aider à désirer vraiment, humblement, ce que Dieu veut lui donner à travers l'expérience exigeante, mais passionnante, du dialogue interreligieux. Je vous remercie.